grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, je vous propose le second volet de notre émission consacrée à l'alimentation du cerveau. Nous vous rappellerons quels sont les nutriments vraiment bénéfiques pour notre encéphale, s'il existe vraiment des aliments qui boostent nos performances cognitives, quels sont les nutriments qui améliorent notre santé mentale et notre humeur, quels sont les aliments qui contribuent à ralentir notre déclin cognitif, dans quelle mesure l'alimentation ultra transformée ou les excès alimentaires entravent le bon fonctionnement cérébral. Bref, quelle est l'assiette idéale pour nos neurones? Pour nous éclairer, le professeur Irène Margaritis de l'ANSES, le docteur Guillaume Font, l'un des meilleurs spécialistes des liens entre le cerveau et le microbiote intestinal, et Sébastien Boller, honorable directeur du mensuel Cerveau et Psycho. Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Avec nous également ce matin, Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Aline.
Médecin, écrivain, auteur du blog Alors Voilà, vous nous proposez chaque semaine une médecine à visage humain. Quoi de neuf aujourd'hui?
Oh, j'ai fait une déclaration d'amour à toutes les orthophonistes de France.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébi.
Bienvenue à nos invités. Bonjour professeur Irène Margaritis.
Bonjour.
Vous intervenez régulièrement dans cette émission. Vous êtes la chef de l'unité d'évaluation des risques liés à la nutrition à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Bonjour docteur Guillaume Font.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'hôpital de la Timone à Marseille, diplômé en psychiatrie et neurosciences, grand spécialiste, je l'ai dit, des liens entre le microbiote intestinal et le cerveau. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Ali.
Docteur en neurosciences, polytechnicien et directeur de la rédaction du très bon mensuel Cerveau et Psycho. Alors professeur Irène Margaritis, ça tombe sur vous. Rappelez-nous quels sont les besoins fondamentaux du cerveau pour qu'il fonctionne bien.
Les besoins fondamentaux du cerveau pour qu'il fonctionne bien, c'est de travailler dans un corps sain. Donc c'est déjà, il faut partir du principe qu'il ne faut pas dissocier le cerveau et le corps, c'est-à-dire qu'on est un organisme. Donc il faut raisonner d'un point de vue physiologique, de façon intégrée, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire de façon à ce que on considère tout le fonctionnement du corps humain, de façon à ce que le cerveau puisse bien fonctionner.
Sébastien Boller.
Et oui, je suis tout à fait d'accord. Non, mais d'autant plus que c'est vrai que ces dernières années, il y a eu quand même beaucoup de travaux de recherche qui montrent que la simple activité physique régulière se traduit par voilà une augmentation de libération de certaines molécules qui aident les neurones à se développer, ça favorise l'irrigation cérébrale aussi, notamment dans des zones critiques pour la mémoire, et que ça, la bonne santé du corps va avoir un retentissement ne serait-ce que par l'interaction saine avec le cerveau, sans même parler de la construction elle-même du cerveau, mais du fait qu'il fonctionne avec un bon apport sanguin, avec une bonne pression artérielle, et puis évidemment il y a les interactions entre le système digestif et le cerveau. Oui.
Guillaume Font, quels sont les besoins fondamentaux du cerveau pour qu'il fonctionne au mieux?
Effectivement, il y a eu une grande erreur au XXe siècle, c'était de croire que le cerveau était isolé du reste du corps, parce qu'il est enveloppé par une barrière qui le protège, et donc on croyait que cette barrière était impénétrable. Et en fait, il y a tout un tas de conditions qui rend cette barrière perméable, et notamment tout ce qui est inflammatoire. Donc dès qu'il y a de l'inflammation dans le sang et l'intestin, ça augmente la perméabilité de cette barrière, et ça peut altérer les fonctions de notre cerveau. Donc en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout comment faire en sorte que notre cerveau fonctionne de façon optimisée, mais sans parler d'augmenter ses capacités,
ce qui est la nuance. En préparant cette émission, vous avez demandé d'insister sur le fait qu'il n'existait pas d'aliments spécifiques pour augmenter ses performances cognitives. Je pensais que manger du poisson gras, des légumes frais arrosés d'huile d'olive, accompagnés d'amandes et de noix, eh ben c'était bénéfique pour soutenir mes capacités cérébrales.
Alors c'est tout à fait bénéfique, et c'est sur le mot augmenter qu'il faut être vraiment très précis. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons des capacités de mémoire, de concentration, parce que c'est de ça dont on est en train de parler quand on parle de performance cognitive, hein, c'est de la capacité de retenir des choses, de se concentrer sur notre travail, notre conversation. Et donc notre cerveau a une part génétique qui est fixée à la naissance, qui n'est pas négligeable. On considère que c'est à peu près la moitié des performances qui est fixée déjà de façon génétique. Et l'autre moitié, c'est au cours de notre développement, c'est la façon dont on a stimulé notre cerveau tout au long de notre vie. Et après, il y a ce qui peut altérer ces fonctions. Et ça, c'est la mauvaise alimentation, l'absence d'activité physique, le mauvais sommeil. Tout ça va altérer. Donc en fait, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est essentiellement comment ne pas altérer les capacités de notre cerveau qui, par ailleurs, fonctionnent très bien.
Et la recherche montre bien, Sébastien Boller, que la malnutrition s'accompagne très souvent d'altérations profondes du fonctionnement cérébral.
Oui, il y a eu des résultats assez spectaculaires récemment, en 2015 notamment, avec ces études australiennes là, qui montrent que si vous mangez que des nourritures grasses et sucrées type fast-food, vous avez carrément une réduction du volume de l'hippocampe qui est la porte d'entrée de nos souvenirs et qui est essentielle aussi pour se repérer dans l'espace. C'est une partie du cerveau qui est cruciale, qui est plastique aussi. Et donc ça fait beaucoup de bruit parce qu'on s'est rendu compte que le support même de la pensée, de la mémorisation, ça dépendait en partie de ce qui arrivait dans notre estomac. Donc c'est vrai que c'est quand même une réconciliation entre le corps et l'esprit, mais pour le meilleur et pour le pire. Donc faut vraiment faire attention.
Alors Guillaume Font, on le verra tout au long de cette émission, mais l'alimentation détient un effet très puissant sur notre santé mentale et notre humeur.
Oui, il est très important de distinguer la performance cognitive, donc concentration, mémoire par exemple, et la santé mentale, et notamment ce qui est anxiété et dépression. Parce que être anxieux et dépressif, ça alterne nos capacités de concentration et de mémoire. Et donc il y a par contre beaucoup d'études qui démontrent que l'alimentation protège la santé mentale. Il y a eu donc une collection d'études qui a été publiée récemment dans une revue de très haut niveau en psychiatrie, qui démontre que manger, par exemple, le régime méditerranéen, ou un régime anti-inflammatoire, donc on pourra détailler ensuite, vous avez déjà évoqué certains éléments de cette alimentation, protège des symptômes dépressifs en population générale.
Alors notre cerveau est influencé par des facteurs métaboliques et nutritionnels. En cas d'hypoglycémie, Reine Margaritis, on constate une diminution de la concentration et de l'attention.
Oui, notre cerveau est un gros consommateur de glucose. Effectivement, quand il y a une hypoglycémie, on devient moins performant. Le problème, c'est que on peut être tenté par la consommation rapide et massive de produits sucrés. Et la conséquence est très simple. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez une augmentation, enfin une restauration plutôt. C'est pas une augmentation, c'est on revient à un niveau d'activité cérébrale et de performance cognitive normale et non pas augmentée. Et le piège, c'est que par différents mécanismes, juste derrière, quelques temps après, on a de nouveau ce qu'on appelle une hypoglycémie, qui est une hypoglycémie qu'on appelle réactionnelle, qui est une réponse. C'est la réponse de l'insuline qui va modifier la composition du sang en sucre, et donc de nouveau on va avoir une chute. Et si on passe notre temps à manger des produits sucrés en se disant ça va mieux, on entre dans un yo-yo qui nous met pas forcément dans les meilleures conditions.
Et en plus de ça, ce yo-yo va altérer les vaisseaux dans le cerveau, parce qu'en fait ces fortes variations de sucre vont faire ce qu'on appelle la glycation. C'est un mot pour dire que les protéines commencent à être dénaturées par le sucre, et ça va conduire à beaucoup d'altérations au niveau du cerveau.
Première question de Christine sur notre page Facebook. Quels sont les avantages nutritionnels pour le cerveau du nourrisson allaité par la mère par rapport au bébé nourri au biberon par du lait maternisé de vache? Guillaume Font.
Alors j'ai revu la littérature récemment. Il n'y a aucune étude qui a comparé directement l'allaitement au sein à l'allaitement par des produits industriels. Donc on n'a pas de réponse sur cette question. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les produits industriels veillent de plus en plus à contenir des facteurs nutritifs qui sont nécessaires au développement du cerveau. Donc s'il y a une différence, en tout cas, elle se réduit de plus en plus.
Au-delà de la question de l'allaitement, le cerveau des nourrissons se construit correctement les premières années de la vie s'il est bien nourri en graisse et en protéines?
Tout à fait. Il est capital pour le nourrisson d'avoir les apports nécessaires, parce que c'est une période de forte consommation, notamment en graisse, parce que les parois des neurones sont riches en graisse. Et donc notamment en graisse insaturée, donc les oméga 3 sont très importants.
Alice nous demande pourquoi son fils de 5 ans est agité quand il mange trop de sucreries. Est-il vrai que le sucre détient un effet hyperactif, Guillaume Font?
Oui, alors il y a des études qui démontrent des liens entre le sucre et l'irritabilité, aussi le sucre et le tempérament chez l'enfant. Donc là on parle de l'hyperactivité. L'hyperactivité, c'est un trouble de la concentration. Et alors paradoxalement, on pense que les enfants sont agités sur le plan moteur, donc il y a du trop et qu'il faudrait du moins, mais en fait c'est un défaut de leur capacité à réguler leur comportement. Et effectivement, il y a de plus en plus d'études nutritionnelles qui suggéreraient que éviter les le fameux yo-yo du sucre dont on parlait, notamment le petit déjeuner Kellogg's, céréales hyper transformées, etc. Ça, ce serait mauvais effectivement pour la concentration de l'enfant.
Donc les enfants sont bien beaucoup plus agités quand ils mangent trop de sucreries.
Notamment, oui, le petit déjeuner, c'est souvent le repas le plus sucré de la journée, parce qu'on disait justement, il faut sortir du jeûne de la nuit, donc il faut recharger les batteries, sauf qu'en fait, on peut les recharger sans passer par ce yo-yo du sucre.
Pierre nous demande pourquoi a-t-on l'impression de ne pas avoir les idées claires quand on fait un repas trop riche. Irène Margaritis.
Quand vous faites un repas trop riche, la masse sanguine est mobilisée pour votre digestion. Donc c'est pour faire très court.
Il y en a moins pour le cerveau.
Moins pour le cerveau.
Allez, Alexia Rivière et Alexia Lacour ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bove. Et c'est réalisé par David Le Prince. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Toutes vos questions sur l'alimentation du cerveau. Avons-vous des vacances avec les Beach Boys?
Vous devriez vous couvrir parce que vous avez attrapé un rhume de cerveau.
Grand bien vous fasse.
Et ce pauvre cerveau, petit à petit, est devenu comme un pois chiche. Et alors, pas chiant, quand il marchait dans la rue, ce petit cerveau, ça sonnait comme un gros lot de bicyclette.
Sur France Inter.
10h20 et nous attendons toutes vos questions sur l'alimentation du cerveau. 01 45 24 7000. Nos experts pour vous répondre, le professeur Irène Margaritis de l'ANSES, le docteur Guillaume Font et Sébastien Boller, directeur de Cerveau et Psycho.
Le cerveau, pour fonctionner, a besoin d'une chimie cérébrale et des molécules très importantes sont les neuromédiateurs. Ça permet aux cellules de communiquer. On parle souvent de molécules de plaisir, comme la sérotonine.
La sérotonine, c'est donc le tryptophane. Le tryptophane, c'est donc un acide aminé donc qui se trouve principalement dans les protéines, comme la viande, le poisson, l'œuf, le lait. Il faut aussi aller chercher les bonnes graisses. Ce sont plutôt les oméga-3 et oméga-6 que l'on retrouvera essentiellement dans les huiles. Lui aussi, le bon sucre, mais le bon sucre, c'est le glucose. Le glucose qu'on a dans les fruits, le glucose qu'on a dans les pâtes, dans le riz, c'est le carburant essentiel du cerveau. À peu près 140 grammes de glucose est consommé par le cerveau tous les jours. La vitamine B, elle se retrouve principalement dans les levures, dans les céréales complètes et dans quelques féculents comme le pain, le riz.
Extrait de Télématin en 2015. Alors nous recevons énormément de questions sur l'alimentation ultra transformée. Quelle est son influence délétère sur nos capacités cérébrales et sur notre humeur? Guillaume Font, je rappelle que vous êtes psychiatre.
Donc, ultra transformé, il y a beaucoup de façons de transformer la nourriture. On va pas toutes les détailler, c'est très technique. Mais la conséquence de ça, c'est souvent une inflammation au niveau de l'intestin. C'est-à-dire que les bactéries de notre tube digestif ne sont pas programmées pour être capables de gérer ce genre d'aliments. Alors, exemple typique, les chips et les acides gras trans, voilà. Cette inflammation de l'intestin va créer une augmentation de la perméabilité de l'intestin. Ça va laisser passer tout un tas de choses dans le sang et qui va créer de l'inflammation, et cette inflammation va pouvoir altérer le cerveau.
Et conséquence,
diminution de l'énergie, de la concentration, et après ça peut aller jusqu'à des symptômes d'anxiété et de dépression. On a démontré qu'il y a une association forte entre le fait d'avoir ce qu'on appelle un syndrome de l'intestin irritable, donc c'est un syndrome où il y a des douleurs, des ballonnements, des problèmes de diarrhée, de constipation, et l'anxiété et la dépression.
Question du docteur Baptiste Beaulieu.
Oui, moi je me souviens durant, enfin c'est loin, hein, mes études de médecine, un jeune patient qui était venu et qui avait un syndrome dépressif, et on ne trouvait pas la raison, et finalement c'était une maladie cœliaque qu'on lui avait diagnostiquée, et ses symptômes se sont amendés après un régime sans gluten, et j'avais été assez ébahi de voir l'amélioration de ce jeune quelques mois après en consultation de suivi. Et donc ouais, c'est vrai qu'on n'imagine pas à quel point ça peut être important.
Oui, en fait l'anxiété et la dépression s'associent à toutes les maladies inflammatoires chroniques, ouais. Donc dès qu'on améliore l'inflammation, on peut améliorer la santé mentale.
Pour bien nourrir son cerveau, Irène Margaritis, mieux vaut privilégier le fait maison, frais et de saison. C'est une base essentielle pour bien nourrir son cerveau.
Oui, alors là, c'est du bon sens.
Oui, mais on nous dit bien trop souvent on se met à manger de l'alimentation ultra transformée.
Alors, c'est pas seulement ça, c'est aussi une alimentation qui va être variée, diversifiée, équilibrée, et qui répond aussi à nos besoins énergétiques. C'est-à-dire que si on mange trop, on passe à côté de la cible aussi. Donc, une alimentation diversifiée. J'ai envie de dire, quand on dit, mais quels sont les nutriments ou les aliments qui sont bons pour notre cerveau? Tous, dès lors que on consomme une quantité relativement équilibrée de chacun de ces aliments qui sont vecteurs de nutriments. Donc on peut apporter énormément de nutriments. Il y a des nutriments qu'on a oubliés, hein, qui sont les antioxydants. Mm-hmm. Alors, les antioxydants sont pas seulement des vitamines et des minéraux, sont aussi des micro-constituants qu'on trouve dans les plantes et qui ont un pouvoir antioxydant. Ce sont des antioxydants qui sont apportés par l'extérieur. Donc ça, c'est intéressant. Et puis ensuite, on peut aussi booster d'une certaine façon son pouvoir antioxydant endogène, c'est-à-dire notre propre pouvoir antioxydant, parce qu'on a les capacités de se défendre contre ce stress-là, qui est le stress oxydant ou oxydatif, ça dépend des terminologies employées. Et de ce fait, par exemple, l'activité physique, clairement, est un très très bon moyen d'augmenter, de renforcer son système antioxydant.
Bonjour Amandine.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Marseille, bienvenue.
Aix-en-Provence, c'est juste à côté.
Oui, juste à côté. Moi, sur ma fiche, vous voyez, j'ai Marseille.
Voilà. Oui, non, mais c'est...
Attention, on a un Marseillais autour de la table, Guillaume Font.
Bonjour.
Alors, bonjour. Quelle est votre question, Amandine?
Oui, alors voilà, j'ai 40 ans, je suis végétarienne depuis 20 ans à peu près maintenant. Et moi, la problématique que je rencontre et auquel j'ai du mal à répondre parce que tout le monde dit beaucoup de choses différentes. Ça concerne notamment la B12, mmh, qui apparemment est essentielle au bon fonctionnement du cerveau. Et moi, en tant que végétarienne, je mange ni viande ni poisson. Mais par contre, je mange 2 œufs par jour. Et régulièrement, j'entends « Ah, mais 2 œufs, c'est pas suffisant. » Et à contrario, j'entends aussi « 1 œuf, ce serait largement suffisant. » Donc ma question, c'est combien d'œufs en tant que végétarienne il me faut pour avoir la bonne quantité de B12
Alors, vous avez la chance, Amandine, d'avoir le professeur Irène Margaritis de l'ANSES qui va vous répondre.
Génial.
Bonjour. La question n'est pas de savoir combien d'œufs par jour, mais de savoir ce que vous consommez sur la journée, voire sur la semaine. Donc très clairement, une personne qui a une alimentation végétarienne, c'est-à-dire qui ne consomme pas de chair animale, mais qui consomme des produits d'origine animale,
oui,
normalement ne devrait pas avoir de déficit en vitamine B12 dès lors que vous consommez également des produits laitiers et d'autres produits d'origine animale, puisque je rappelle que la vitamine B12 n'est synthétisée que par l'animal.
Aline Perraudin de Santé Magazine, végétarienne accessoirement.
Oui, c'est ça, je voulais dire tout à fait la même chose. En plus, l'équilibre alimentaire se joue sur une semaine et on a des réserves quand même de B12, mais évidemment la supplémentation est indispensable quand on est en revanche végétalien.
Merci beaucoup Amandine. d'Aix-en-Provence de nous avoir appelé. Ce matin, Guillaume Font, vous êtes donc l'un des meilleurs spécialistes des liens entre le microbiote intestinal et le cerveau. Rappelez-nous quelle est la fonction de ce microbiote et expliquez-nous les conséquences d'une dysbiose sur notre morale, sur notre humeur.
Donc le microbiote, c'est un paquet de 2 kilos de bactéries qu'on a dans l'intestin et qui nous aident tous les jours, à chaque instant. On leur dit pas assez merci parce qu'elles nous aident à plein de choses. Elles nous aident à digérer, elles nous aident à extraire des nutriments de notre alimentation. Elles nous protègent aussi parce que c'est une forte barrière contre toutes les agressions infectieuses de l'alimentation. Et quand il y a une dysbiose, c'est-à-dire une perturbation qualitative de ces bactéries, c'est une réduction de la biodiversité en fait. C'est comme un écosystème. Et donc, s'il est agressé par une mauvaise alimentation par exemple, ça va attaquer les bactéries et elles vont se réduire. Et là, il va y avoir tout un tas de troubles qui va apparaître, et notamment des bactéries beaucoup plus méchantes qui vont arriver et prendre la place. Et ça va pouvoir créer beaucoup de problèmes.
Et que sait-on des liens entre un microbiote intestinal durablement déséquilibré et un coup de déprime, voire une dépression?
Alors, on est en pleine phase exploratoire. Maintenant, on a des études préliminaires qui démontrent des associations entre la dysbiose et la dépression. On retrouve chez les patients dépressifs des microbiotes perturbés qui ressemblent à l'intestin irritable d'ailleurs. Et donc, la prochaine étape, c'est de comprendre comment aider au mieux ces patients. Il y a une méta-analyse, donc une collection d'études qui vient d'être publiée il y a 2 mois, qui démontre que les probiotiques améliorent les symptômes d'anxiété et de dépression. Donc on a un argument fort thérapeutique pour dire qu'il faut aller creuser. Maintenant, il faut identifier quels sont les patients qui bénéficieraient de ça.
Rappelez-nous ce qu'est un probiotique.
Un probiotique, c'est une capsule qui contient des bonnes bactéries qui ont été purifiées. Donc c'est souvent 5 souches de bactéries, souvent des lactobacilles et des bifidobactères. On trouve des dizaines de probiotiques dans le commerce. On peut pas dire qu'un probiotique ou une souche est celle qu'il faut prendre absolument. On n'a pas ces études-là pour répondre à cette question.
Sébastien Boller de Cerveau et Psycho.
Oui, je crois que pour le microbiote, il y a quelque chose de très important à souligner, c'est d'avoir une alimentation diversifiée.
Avant tout.
Et notre alimentation à l'occidental, il y a quand même pas mal d'études qui ont montré qu'elle réduisait beaucoup la diversité des bactéries dans le système digestif. Puisque quand on va voir dans des populations, par exemple d'Afrique, qui vivaient un peu encore comme faisaient les chasseurs-cueilleurs, il y a des équipes à l'Institut Pasteur qui commencent à constituer un conservateur du microbiote. On se rend compte qu'ils ont un microbiote 1000 fois plus diversifié que le nôtre, et que tout ce qui est alimentation transformée va écraser la diversité du microbiote avec des conséquences assez graves. Donc c'est bien qu'aujourd'hui il y ait un retour vers un souci de diversification de l'alimentation, mais c'est pas toujours facile parce qu'on a peu de temps. En même temps, l'industrie des plats tout préparés continue à prospérer, donc il y a une vraie problématique sociale aussi.
Il y a une étude qui vient de démontrer que la diversité du microbiote est directement corrélée à la diversité des légumes que l'on consomme dans notre alimentation.
Donc là, c'est idéal pour cultiver sa bonne humeur, c'est la diversité.
C'est ça, et diversifier ses légumes.
Et éviter l'alimentation ultra transformée. Est-ce que l'alimentation peut tout de même contribuer à lutter contre une dépression sévère ?
Ah oui, ça c'est sûr, on ne peut pas, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs en début d'émission avec le professeur Margaritis, on ne peut pas avoir un esprit sain sans un corps sain en fait, dissocier les deux ce n'est pas possible, donc penser sortir de sa dépression en gardant une mauvaise alimentation, ça ne me paraît pas raisonnable du tout.
Alors vos travaux sur le microbiote intestinal et la schizophrénie sont reconnus, une bonne alimentation peut améliorer l'état d'un schizophrène qui suit son traitement correctement ?
Alors, dans la schizophrénie, on pense souvent aux symptômes de délire et d'hallucination qui sont les symptômes les plus marquants de la maladie. Et ça, généralement, ils sont bien contrôlés par la plupart des traitements. Par contre, le vrai problème de cette maladie, c'est qu'il y a beaucoup de dépression et d'anxiété cachée et qu'on attribue à la schizophrénie. Et cette dépression pourrait être améliorée par l'amélioration du microbiote. C'est pour ça qu'on veut faire à Marseille une étude qui consisterait à proposer une greffe de microbiote pour les patients qui ont des dépressions et notamment dans la schizophrénie.
Question de Muriel sur notre page Facebook. Que j'ai un garçon autiste Asperger, et nous avons récemment entamé un régime alimentaire à cause d'intolérance alimentaire. Que pensez-vous de certaines études sur les liens entre la flore intestinale et l'autisme ? Vous êtes penchée sur la question, Aline Perraudin.
Oui, on voit des liens, et puis il y a encore une étude tout à fait récente qui date de la semaine dernière, qui a montré que l'alimentation des femmes enceintes, qui est, quand elle est riche en aliments transformés, et notamment en acide propionique, qui est un conservateur qu'on retrouve dans les pains et les fromages industriels, eh bien, il y avait une augmentation des troubles autistiques chez l'enfant. Donc c'est un lien pour l'instant, il n'y a pas de causalité qui ont été démontrées, mais quand même on voit que l'alimentation transformée a l'air de jouer un rôle dans la des troubles autistiques.
On est vraiment au début des études, mais par contre, moi, j'ai vraiment la conviction. Alors, ce qu'on sait, c'est que les enfants qui ont des troubles autistiques ont des microbiotes perturbés. Ça, on le retrouve dans beaucoup d'études.
Ça, des études l'ont montré.
Oui.
Ça, il parle d'inflammation aussi, voilà, dans cette étude.
À ma connaissance, en fait, le meilleur moyen quand même, là, on est en train de parler d'une pathologie qui touche le développement du cerveau. Donc, toutes les pathologies qui touchent le développement du cerveau peuvent être améliorées par une bonne alimentation par définition, parce que si le cerveau n'a pas ce qu'il lui faut pour bien se développer, ça va aggraver les troubles.
Question de Franck sur notre page Facebook. Que pensez-vous du jeûne intermittent pour notre cerveau, Irène Margaritis?
Le jeûne intermittent, le jeûne d'une façon générale, c'est une forme de manipulation nutritionnelle quand même. Hein. C'est-à-dire que ce type de manipulation n'est pas forcément adapté à tout le monde. Il faut bien connaître son état de santé. Et si on veut vraiment le faire, il faut idéalement se faire suivre par un diététicien ou un médecin nutritionniste.
Alors le jeûne intermittent, je le rappelle, c'est par exemple le jeûne de 16 heures. C'est par exemple sauter le petit déjeuner, manger au déjeuner et le soir. Ou bien inversement, prendre un petit déjeuner et ne pas manger le soir. C'est ça, grosso modo, le jeûne intermittent.
Oui, c'est laisser l'intestin au repos pendant 12 à 16 heures par jour. Donc après, on choisit la méthode la plus simple, et de ne pas petit déjeuner et de réduire sa prise alimentaire à partir du début d'après-midi jusqu'en début de soirée. Et l'idée, c'est qu'on a parlé du volume de distribution, que quand on digérait, on avait l'estomac lourd et qu'on se concentrait moins bien. Donc l'idée, c'est qu'on va permettre pendant plus longtemps à l'organisme de combattre les infections, d'alimenter le cerveau et de réduire la prise alimentaire sur une courte période.
Oui, ce à quoi il faut faire attention avec le jeûne intermittent, c'est il faut quand même être avoir une glycémie qui soit équilibrée. Et pour ce faire, si on fait un jeûne intermittent en sautant le petit déjeuner par exemple, il faut que les apports, notamment en glucides, la veille au soir, aient été suffisants pour faire des stocks de glycogène dans le muscle et dans le foie, qui vont ensuite libérer du glucose pendant toutes ces heures et qui vont permettre d'avoir une glycémie équilibrée et donc parvenir à être en équilibre émotionnel et être performant d'un point de vue cognitif.
Donc privilégier la veille des pâtes al dente, du riz complet ou du riz basmati.
Par exemple, mais ne pas se coucher trop vite non plus, manger suffisamment tôt. Enfin, il y a pas mal de règles quand même à respecter.
Sébastien Boller.
Oui, mais la question du jeûne, on est vraiment au début, je crois, de l'examen de cette question-là. Il y a eu quand même pas mal d'études sur les rongeurs. Enfin, c'est pour ça que le passage à l'humain est encore un peu délicat, mais des indices intéressants quand même. C'est-à-dire que on voit des modifications biochimiques dans le cerveau, de la synthèse de facteurs de croissance, d'augmentation du nombre de synapses, des tests de mémoire qui sont meilleurs, une protection contre le peptide bêta-amyloïde, vous savez, qui est associé à la maladie d'Alzheimer. Donc c'est vrai qu'on se pose de plus en plus la question. Il faudra qu'il y ait des études de suivi très conséquentes pour qu'on puisse conclure sur l'humain. Ouais.
Nous, on a pu, donc c'est ce qu'on appelle la sano-jeunesse, c'est la réaction de l'organisme à la privation de nourriture. Effectivement, il y a des mécanismes neurobiologiques d'activation. En fait, c'est comme si c'était un mécanisme ancestral pour aller chercher de la nourriture qui nous manque et qui augmenterait les performances sur le court terme. Alors, j'insiste sur le court terme, on va pas jeûner après pendant des mois et des mois, maximum 3 semaines en général. Hein. Et enfin, pour le jeûne thérapeutique, c'est encore un autre type de jeûne. Mais ça, le mot thérapeutique est important, c'est pour soigner des maladies. Et en fait, on a publié avec des collègues allemands une revue de la littérature. Parce qu'en Allemagne, ça se fait beaucoup le jeûne, hein, beaucoup plus.
Par exemple,
France.
À l'hôpital de la Charité à Berlin.
Exactement. Et donc, avec les collègues justement de cet hôpital, on a publié une revue de la littérature qui démontre que le jeûne thérapeutique, alors là, c'est un jeûne beaucoup plus contraignant, mais bien encadré médicalement, améliore l'anxiété et la dépression en seulement 48 heures, alors que les antidépresseurs mettent 3 semaines.
48
donc,
heures.
Donc vraiment, ça nous intéresse énormément parce que c'est beaucoup plus rapide qu'un antidépresseur.
Aline Perraudin.
Par ailleurs, il faut quand même faire attention, par exemple, pour les personnes âgées qui sont parfois dénutries, et conseiller le jeûne intermittent, c'est pas forcément conseillé.
Toutes les personnes vulnérables, diabète, hypertension, maladies chroniques, personnes âgées, encadrement médical et vraiment grande prudence sur l'application.
Une chose essentielle pour prendre soin de son cerveau, on l'oublie bien souvent, et en cette période de canicule, on va pas l'oublier justement, faut s'hydrater, Irène Margariti. C'est essentiel pour que notre cerveau fonctionne mieux. Il paraît qu'une légère déshydratation peut altérer les capacités cognitives.
Ah oui, c'est certain. Une légère déshydratation diminue le volume sanguin, diminue le transport de l'oxygène. Donc il faut vraiment veiller à garder un volume sanguin qui permette la circulation du sang et des globules rouges qui vont amener l'oxygène aux cellules.
Ça, c'est un message fort, c'est que quand on a un coup de barre, la première chose à faire, c'est de boire de l'eau et pas un café, par exemple.
Nous sommes en période d'examen. Quels sont vos conseils nutritionnels pour un cerveau qui fonctionne au mieux? Quelle est l'assiette idéale pour mieux se concentrer? Or, c'est la dernière épreuve du bac, hein, je crois, aujourd'hui, mais je crois qu'il y a plein d'étudiants qui passent des examens. Guillaume Font, qu'est-ce que vous faisiez, vous, quand vous étiez étudiant en médecine?
Alors, moi, j'avais une très mauvaise alimentation, pourtant, je m'en suis sorti, je sais pas comment j'ai fait, hein, vraiment.
Plus sérieusement, c'est quoi l'assiette idéale?
L'alimentation étudiant, ça est catastrophique, parce que souvent, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas le temps, et on mange des choses toutes faites.
Mais en période d'examen, c'est
alors,
quoi
en période d'examen, moi,
le conseil de base?
Alors, le conseil de base, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la salade verte agrémentée. Parce qu'en fait, on en trouve facilement et en toute saison. Et, agrémenté avec quoi? Avec des noix, du fromage de chèvre par exemple, donc dans la préparation de la vinaigrette, de l'huile d'olive pour les oméga 3.
Le colza aussi.
Oui, le colza est encore plus riche en oméga 3. Après, elle plaît pas forcément à tout le monde. Il faut aussi regarder la conservation de l'huile. Est-ce qu'elle est bien conservée à froid? Il y a beaucoup de paramètres. Mais la salade ralentit la digestion. Donc ça permet aussi d'avoir moins de variations de sucre, donc moins d'hypoglycémie. Et puis après, c'est un peu la même nourriture que le sportif de haut niveau, parce qu'en fait, toute proportion gardée, le cerveau consomme beaucoup. Et donc si l'étudiant tous les jours est en train de réviser, ben, il faut aussi alimenter son cerveau.
Irène Margaritis.
Je pense qu'il faut, éviter de changer d'alimentation d'un seul coup. C'est-à-dire qu'il y a aussi les habitudes alimentaires. Bon, si elles sont très, très mauvaises,
si on mange du McDo ou du Burger King tous les jours...
Non, mais très sérieusement, la question du changement d'habitude aussi rapide peut être assez perturbant. Néanmoins, c'est peut-être aussi le moment, tout doucement, progressivement, d'aller vers une alimentation plus saine, en se disant que finalement, un examen, effectivement, c'est comme une compétition. Il faut être performant le jour J et donc s'alimenter correctement. Alors, veiller à s'alimenter suffisamment, mais pas trop non plus. Mais je pense que c'est des questions qu'il faut se poser un peu avant les examens. C'est un peu comme les révisions de dernier moment. Ça marche pas forcément très bien.
Qui peut répondre à cette question? Est-il vrai que l'avoine est considérée comme l'aliment cérébral idéal? C'est un aliment riche en vitamine B, en magnésium, en acides aminés. Qui peut répondre? Guillaume Font. Question piège, j'avais envie de vous piéger ce matin.
Pour moi, il n'y a pas d'aliment idéal. Hein.
Oui. C'est ce que j'ai lu en préparant cette émission. L'avoine revenait assez... ça ne peut pas faire de mal, de
toute
façon. Il a
un index glycémique assez bas par rapport à d'autres céréales.
Ouais. Ça ne peut pas faire de mal, de toute façon. Hein, a priori, Irène Margaritis.
Non, mais je rebondis sur la question de l'index glycémique. Effectivement, quand les aliments ont un index glycémique bas, on revient à ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire que comme la glycémie ne monte pas très vite, finalement, les glucides sont disponibles sur un temps plus long et sans variation et sans risque de yo-yo. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant, mais il y a d'autres aliments qui présentent le même intérêt.
Est-il utile de souligner les effets de l'alcool sur nos capacités cognitives?
Je crois qu'on en a tous fait l'expérience pour ceux qui ont essayé un jour un verre d'alcool.
Irène Margaritis.
C'est pas recommandé pour les révisions, en tout cas.
Non, bah, c'est évident.
C'est évident.
Au niveau de vigilance qui diminue.
Préciser que les effets à long terme, spécialement chez l'alcoolisation, chez les jeunes, il y a quand même de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a ensuite des séquelles neurologiques assez prolongées. Donc, attention.
Dans une étude récente, on a montré que 40% des étudiants en médecine avaient un problème d'alcool.
Bon. Question de Christiane de Saint-Malo. Ne pas manger du tout de fruits et de légumes, est-ce prendre des risques pour son cerveau?
Alors, pour son cerveau, probablement, puisque pour sa santé, oui. Et quand on revient à l'idée selon laquelle on va considérer l'ensemble, oui, se présente des risques, puisque des déficits en nutriments, et puis un manque à gagner, quelque part, des bénéfices, de l'intérêt nutritionnel des fruits et des légumes, qui sont quand même maintenant bien connus.
Allez, il est temps de retrouver la chronique de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, c'est la dernière?
Oui, c'est la dernière.
De la saison, hein, de votre chronique?
Ça fait un an maintenant que je relais des récits de patientes et de patients sur cette antenne et je voulais terminer la saison par un témoignage qui me tient particulièrement à cœur, celui de Baptiste. Baptiste est un petit garçon de 7 ans qui zozote. Quand il parle, tous les autres enfants se moquent. Alors il reste dans son coin, il se tait. Eh bien, une femme va lui sauver la vie. Elle s'appelle Françoise, elle est orthophoniste. Et je crois que l'enfance du petit Baptiste aurait été vraiment merdique sans les efforts de Françoise, la patience de Françoise, la bienveillance de Françoise, les appareils compliqués de Françoise, vous savez, ces appareils pour apprendre à positionner correctement sa langue sur le palais. Bref, le petit Baptiste a réussi à parler normalement et les autres enfants ont arrêté de se moquer. D'ailleurs, petit aparté, vous avez remarqué comme on dit, les enfants sont si méchants entre eux, comme si ça allait mieux ensuite en grandissant et que les adultes témoignaient plus de bienveillance les uns envers les autres. Bref. Il y en a des milliers des Françoises en France. Et vous savez combien d'enfants sont concernés par les troubles du langage et de l'apprentissage, Annie ?
Non.
5%. C'est une des premières causes de décrochage scolaire et d'isolement chez les jeunes. Et ça me paraissait important pour ma dernière chronique de la saison de rendre hommage à toutes les orthophonistes du monde et surtout aussi de prévenir les gens. Grâce à ces soignants terribles, votre enfant peut mal tourner et se retrouver à France Inter où il parlera de la vie des gens au micro tous les lundis et finira la saison en remerciant le Big Boss Ali, la génialissime Alexia, les fantastiques Claire, Stéphanie, David, Laura, Théo, Nicolas, etc. Et remercier les auditeurs qui ont permis au petit Baptiste de 7 ans de régler ses comptes avec sa voix et à enfin positionner la langue comme il faut, là, comme ça, parfaitement sur le palais. Alors, merci à tous, merci à toutes et merci à toutes les Françoises du monde.
Merci beaucoup, Baptiste Beaulieu. On se retrouve à la rentrée.
Hein ? Bien sûr.
Vous avez passé de bonnes vacances, j'espère.
Oui, bien, hein, bien. Je vais essayer de me reposer un peu.
Allez, on retrouve votre chronique sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse, sur le site de France Inter et sur votre blog. Alors voilà, allez, nous attendons toutes vos questions sur l'alimentation du cerveau au 01 45 24 7000.
D'où vient cette lumière au-dessus d'elle et ce pas de louve caressante? Ces hanches qui roulent, facile, naturel, y a-t-il un amour qui la hante? C'est peut-être juste l'encarante. On dirait quelquefois qu'elle a des ailes, ou comme une audace l'insolente. Un avis nouveau, une envie nouvelle, elle en deviendrait fatigante. Ce n'est rien de plus que l'encarante. Elle est un peu cabri, un peu brûle d'amour du cœur au ventre. Cette eau qui bouillonne, où la puise-t-elle? Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle entre avec le sourire en l'an 40. Quelques années, quelques séquelles, quand elle sera sur d'autres pentes, en pleine sagesse, du moins le croit-elle, pour accompagner la descente, elle se souviendra de l'an 40.
Quel beau titre, l'an 40 de Jeanne Chéral.
L'essentiel, c'est d'avoir une alimentation variée et bien équilibrée.
Grand bien vous fasse.
À midi, des protéines animales. Et puis le soir, un bon laitage.
Ah, tiens, tu vois le maroilles, le fromage que t'aimes. On a droit.
Ah bon, ah bon.
Ah non, non, ça faut éviter.
Sur France Inter.
11h15, nous attendons toutes vos questions sur l'alimentation du cerveau. 01 45 24 7000. Nos experts pour vous répondre, le professeur Irène Margaritis de l'ANSES, le docteur Guillaume Font et Sébastien Boller, directeur de Cerveau et Psycho. Une question très pertinente de Nana sur notre page Facebook. Pourquoi l'alimentation qui est donnée aux patients en service psy, en hôpitaux ou cliniques, est-elle aussi mauvaise et peu adaptée, Guillaume Font?
Alors en fait, il y a beaucoup de problèmes avec l'alimentation collective qui est dont les enjeux de sécurité alimentaire vont à l'encontre de nos recommandations. C'est-à-dire par exemple qu'il est très difficile d'avoir des produits frais et par exemple du poisson cru, hein, pour donner un exemple, si on veut manger du saumon cru, c'est pas possible dans l'alimentation collective. Donc ce que j'aurais tendance à recommander à Nana, c'est que c'est le bon moment pour demander un jeûne thérapeutique à son médecin et lui dire que c'est un médecin qui le recommande et pas qu'elle n'a pas d'anorexie mentale par exemple.
Et ce qui est bien, c'est qu'on est tantôt entouré de médecins.
Voilà, donc au moins on est bien médicalisé, s'il y a un problème, on le sait vite.
Elle est spéciale dédicace pour le professeur Irène Margaritis.
Perdu à l'est de la mer Égée, cette île montagneuse est un lieu mythique, Icarie. À la fin des années 2000, des chercheurs venus étudier la population d'Icarie l'ont identifiée comme l'une des 5 zones bleues du monde, les zones où l'on vit le plus longtemps.
Notre cuisine est simple et se base sur les saisons.
Au menu du jour, de nombreux légumes cultivés dans le jardin de l'auberge, des légumineuses, ici des pois chiches, et différentes herbes.
Nous utilisons beaucoup de menthe. Ici, on dit que c'est très bon dans les plats avec des haricots parce que ça aide à digérer.
Théa utilise également du romarin, de l'origan, du thym, de la sarriette et de la sauge, du yaourt de vache ou de chèvre, et bien sûr, pas n'importe quelle matière grasse.
Plein d'huile. Beaucoup d'huile d'olive.
Fruits et légumes, légumineuses, herbes aromatiques et huile d'olive, les ingrédients classiques du régime méditerranéen, ce serait l'un des secrets de leur longévité.
Extrait de la quotidienne sur France 5 en mai 2018, Irène Margaritis. Les vitamines, les oligo-éléments, les sels minéraux sont très précieux pour notre cerveau. Est-ce qu'on peut dire que les régimes de type méditerranéen, comme le régime crétois, cochent toutes les cases quand on veut prendre soin de son cerveau ?
Clairement, oui. Je n'ai pas de conflit d'intérêt.
Avec la graisse.
Bon, très sérieusement, on sait que l'alimentation et le régime dit méditerranéen, alors je dis dit méditerranéen parce qu'on parle du régime crétois aussi, permet d'apporter des nutriments qui sont très intéressants d'un point de vue pour la santé, qui sont intéressants aussi pour le cerveau. Alors moi, je préférerais parler d'une façon plus générale, encore en revenant à ce qu'on appelle la physiologie intégrée, j'aime bien. Et donc ces nutriments-là vont permettre de nous protéger contre certaines maladies. Alors c'est la raison pour laquelle au début du reportage on parle des zones bleues. Alors les zones bleues, pour redire, évoquer ces zones bleues, il s'agit de ces zones dans le monde dans lesquelles l'espérance de vie est très élevée. On en trouve à Okinawa, alors on pense aussi au régime d'Okinawa. Alors très clairement, il n'existe pas un seul régime alimentaire qui va permettre d'apporter les plus grands bénéfices à la santé. Il y en a plusieurs, c'est pour ça qu'il y a plusieurs zones bleues avec des caractéristiques différentes. Pour revenir au régime méditerranéen, l'intérêt du régime méditerranéen, c'est qu'effectivement, il va apporter des vitamines et des minéraux, mais aussi tous ces micro-constituants dont je parlais tout à l'heure. Et il ne suffit pas simplement d'appliquer certaines recettes, mais il faut aussi considérer que ce qu'ont saisi le grec, c'est aussi la tradition qui va utiliser, comme ça a été dit, certaines épices et certaines façons de cuisiner. Un autre élément, pour terminer, c'est le mode de vie. C'est-à-dire que avec un régime méditerranéen en région parisienne, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes résultats, et avec un niveau de sédentarité élevé, si vous ne faites pas attention, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats sur votre espérance de vie. C'est ce qu'on voit aussi beaucoup à Okinawa, avec un type de vie et des relations sociales qui sont vraiment très différentes des nôtres.
Quel serait, par exemple, le déjeuner méditerranéen idéal ? Tiens, ce midi, Irène Margaritis, y aurait quoi dans mon assiette, idéalement ?
Ah, c'est difficile de faire des assiettes parce que nous, on insiste sur le fait qu'il faut vraiment considérer l'alimentation dans son ensemble, dans
bien
la
sûr,
journée et sur la semaine.
Mais par donc, exemple, si je me fais par exemple une salade de pois chiches avec de la feta de brebis non pasteurisée, avec des herbes, avec une salade de pourpier ou de mâche, avec des oignons, de l'ail,
de l'huile d'olive,
c'est déjà un bon début.
Alors, c'est un bon début, surtout s'il fait chaud. Il faut aussi considérer que ce sont des pays dans lesquels il fait plus chaud que dans les latitudes nord. Donc ça, c'est intéressant, mais il faut aussi veiller à la quantité en termes de glucides. Mais on n'a pas évoqué le poisson. Le poisson présente un intérêt. Alors dans l'émission, on a parlé très globalement. Il y a plusieurs cibles à considérer. La prévention de l'Alzheimer, la prévention de la démence liée à l'âge. Donc on sait aussi très bien qu'une alimentation équilibrée qui apporte ces nutriments-là, les nutriments dont on parle, mais tous les nutriments va permettre aussi de diminuer l'effet physiologique de l'âge sur le cerveau. Et ça se joue, je dirais, au début de la vie. C'est-à-dire, faut pas penser que les dégénérescences qui sont liées à l'âge sont des dégénérescences qui apparaissent d'un seul coup. Elles démarrent très très tôt et le déclin physiologique, d'une façon générale, peut être ralenti par une alimentation, mais dès le début de la vie.
Et des études montrent qu'une mauvaise alimentation chronique, une malbouffe chronique, accélère le vieillissement cérébral et neuronal. Qu'est-ce qu'on sait sur ce sujet, Guillaume Font ?
Ce qu'on peut dire, c'est qu'à 20 ans, on a le cerveau qu'on hérite et à 40 ans, le cerveau qu'on mérite. Mmh. Et effectivement, on voit les effets des trajectoires liées au mode de vie, alimentation, activité physique et sommeil sur le cerveau.
Sébastien Boller.
Oui, et puis je pense que ce que vient de dire Margaretti, c'est important sur le fait qu'une alimentation, ça s'insère dans un mode de vie, et notamment dans la socialisation. Si on prend Alzheimer, par exemple, effectivement, typiquement, les oméga 3, c'est protecteur, on le sait maintenant, ça maintient une réserve cognitive plus tard. Mais ce qui protège énormément le cerveau contre le déclin, c'est aussi le lien social. Et quand on vit comme ça dans un contexte où à la fois on nourrit par des nourritures matérielles et par des nourritures humaines, là on donne toutes les chances à son cerveau. Et le rythme de vie est essentiel, on n'en a pas parlé. C'est-à-dire que quand on a peu de temps, quand on est stressé, quand on vit dans des environnements urbains, il y a de plus en plus, c'est quelque chose que les addictologues remarquent, c'est une façon de se nourrir qui est là pour apporter des petits boosts à l'humeur parce qu'on se sent pas bien, c'est l'alimentation émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va se jeter sur des choses sucrées, salées parce que ça permet de se sentir mieux dans les minutes qui suivent. Et là, on peut ensuite rentrer dans une perte de contrôle, c'est-à-dire dès qu'on se sent pas bien, dès qu'on se sent stressé, appuyer sur la touche sucre-sel pour se sentir un petit peu mieux. Et là on rentre dans l'alimentation émotionnelle. Et qui s'inculque d'ailleurs dès l'enfance, ça c'est quelque chose qu'on découvre aussi, c'est-à-dire qu'un enfant, si on lui apprend à réguler ses émotions en lui donnant du sucre ou des écrans ou des chips, après c'est quelque chose sur lequel il va se réfugier très facilement. Donc il faut penser alimentation, oui, type crétois et société à tout moment.
Aline Perraudin.
Moi je voulais revenir sur l'alimentation, dire que les compléments alimentaires ne compensent pas les méfaits de la malbouffe et c'est important. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que la prise de compléments alimentaires contre le déclin cognitif, et c'est beaucoup d'argent parfois dépensé pour rien, ne sert vraiment à rien.
Que dit l'ANSES sur ce sujet, Margaritis ?
C'est assez clair, hein, c'est quand on considère une fonction dépend de l'apport de beaucoup beaucoup de nutriments. Dans les compléments alimentaires, on va trouver certains nutriments dont on n'a pas forcément besoin parce qu'on n'est pas forcément en insuffisance d'apport. C'est-à-dire que ces nutriments-là ne vont rien apporter de plus. Encore une fois, on ne peut pas booster la fonction en apportant plus que ce dont on a besoin. Et puis, il ne faut pas oublier que les compléments alimentaires contiennent des nutriments qui, dans certaines situations, avec certaines interactions, du fait de l'état physiologique du consommateur, peut présenter des effets indésirables sans donner de solution.
Il faut par exemple faire attention aux compléments alimentaires à base de bêta-carotène qui peuvent être délétères sur le foie.
Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, le bêta-carotène, une étude avait montré avec une supplémentation des effets sur le cancer du poumon chez des fumeurs. Donc, les essais de supplémentation avaient été arrêtés, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des compléments alimentaires qui peuvent, si on n'est pas en situation physiologique de les recevoir d'une certaine façon, vont présenter des risques pour la santé, avec des risques qui sont aigus, c'est-à-dire ça peut être une hépatite, des éruptions cutanées, des troubles cardiovasculaires ou sur du long terme, dès lors que c'est pas contrôlé. Donc les compléments alimentaires peuvent présenter un intérêt dès lors qu'ils répondent à un besoin et ce besoin est très difficile à identifier par le consommateur lui-même. Donc l'idéal c'est de faire ça avec un diététicien ou un médecin nutritionniste encore une fois.
Pour les besoins, je rappelle, pour les personnes qui ont de l'anxiété et de la dépression caractérisées, qui ont été diagnostiquées par un psychiatre, hein, que la vitamine D, la vitamine B9 et les oméga 3 ont montré l'efficacité en ajout au traitement habituel, soit la psychothérapie, soit les antidépresseurs.
Bonjour Émilie, allez-y. Pardon.
Je veux juste rebondir là-dessus. On s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de personnes. Alors on sait que beaucoup sont en déficit de vitamine D, de vitamine B9 et d'oméga 3. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que quand on apporte ce qui manque, on peut restaurer une fonction.
Bonjour Émilie, bienvenue.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question, Émilie ?
Alors j'avais une question pour vos spécialistes par rapport au microbiote intestinal. Je voudrais savoir au niveau alimentaire, comment on peut réagir quand on a la prise d'un antibiotique, par exemple, notamment vis-à-vis des effets sur le cerveau ?
Guillaume Font.
C'est une excellente question. On n'a pas d'études pour répondre précisément à cela. On sait que les antibiotiques vont décaper les bactéries. Et après, chez la majorité des personnes, il y a ce qu'on appelle la résilience du microbiote. C'est la capacité du microbiote à se rétablir suite à un dommage. Donc, pour la majorité des personnes, il n'y aura aucun problème si le traitement antibiotique est pris correctement. Par contre, il y aura des personnes qui vont avoir une vulnérabilité. Donc, notamment s'il y a aussi soit de la mauvaise alimentation, soit une fragilité dans le microbiote. Et dans ce cas-là, il y a de plus en plus de personnes qui proposent des traitements prébiotiques ou probiotiques, parfois même en préventif, notamment chez les personnes qui ont des antécédents de problèmes intestinaux.
Vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, la différence entre les prébiotiques et les probiotiques ?
Les prébiotiques, donc on a dit tout à l'heure les probiotiques, donc ce sont des bactéries saines qu'on administre en capsule qui passent à l'estomac, qui vont directement dans l'intestin, alors que les prébiotiques, ce sont des composantes de l'alimentation qui vont favoriser la pousse des bonnes bactéries, donc ce sont les fibres hein, qu'on trouve par exemple dans la salade ou les légumes verts.
Docteur Baptiste Beaulieu.
Oui, moi j'essaie toujours quand je prescris des antibiotiques de prévenir les gens d'acheter, parce que malheureusement c'est pas remboursé, que ça coûte cher et que certaines personnes ne peuvent pas le faire, d'acheter des probiotiques justement, mais les probiotiques qu'on trouve en pharmacie la plupart du temps ne sont pas réfrigérés. Alors est-ce que ça marche quand même ou est-ce que c'est juste de l'argent foutu en l'air pour mes patients?
Ça malheureusement on n'a pas la réponse à cette question parce que on ne sait pas si c'est des composants qui sont dans les parois des bactéries qui vont permettre l'amélioration de la santé globale du microbiote en permettant aux autres bactéries de mieux pousser ou s'il faut des bactéries vivantes, donc on n'a pas la réponse. Et effectivement, ça coûte deux fois plus cher quand c'est réfrigéré.
Merci beaucoup, Émilie, de nous avoir appelé. Existe-t-il des aliments qui peuvent booster l'activité de nos neurotransmetteurs ? Pour le dire vite, les neurotransmetteurs sont des composés chimiques libérés par des neurones agissant sur d'autres neurones. Est-ce qu'on...
Alors là, dès qu'on parle de booster, c'est fini. En fait, la réponse est non. Voilà, on a été clair là-dessus. On peut pas booster, on peut juste restaurer quand il y a un déficit. Par contre, on peut faire de la prévention.
Mais est-ce qu'il y a des aliments qui permettent d'améliorer l'activité de nos neurotransmetteurs, non ?
Donc, par exemple, on a parlé tout à l'heure de la vitamine B9. La vitamine B9, c'est un coenzyme qui est précurseur de la sérotonine dans le cerveau. Donc, pour les gens qui ont des déficits en vitamine B9, ça peut être intéressant de consommer des aliments riches en vitamine B9. Il y en a plein. On revient toujours aux mêmes aliments. Hein, c'est tout ce qui est vert,
coloré.
Et les huiles.
Beaucoup de questions sur l'alimentation anti-stress. Est-ce qu'il existe des aliments qui abaissent notre niveau de mauvais stress?
Alors là, j'irai tout de suite sur la piste de l'inflammation, c'est-à-dire que le stress est très corrélé à l'inflammation dans les deux sens, hein. C'est-à-dire l'inflammation augmente le stress augmente l'inflammation. Donc j'irai sur des aliments anti-inflammatoires, donc aliments non transformés, pauvres en sucre raffiné et en graisse saturée.
Allez, pour terminer, j'aimerais qu'on rappelle les grands principes d'une alimentation bénéfique pour notre cerveau, qu'il s'agisse de nos capacités cognitives ou de notre santé mentale, pour résumer.
Alors, en résumé, aliments non transformés, de saison, cuisinés à la maison, pas préparés, et donc diversifiés, qui ne provoquent pas de yo-yo de sucre, donc pas de sucre rapide. Et ensuite, il faut quand même se faire plaisir, c'est important pour le cerveau.
Un petit peu quand même, un petit peu de chocolat, on a le droit.
Bien sûr.
Irène Margaritis.
On revient sur les recommandations classiques, puisque ce qui est bon pour le cerveau est bon pour le reste du corps, donc une alimentation diversifiée. Forcer un peu sur les légumineuses, parce qu'on a un peu tendance à les oublier en France. Et puis sur le poisson aussi, parce qu'on a tendance à l'oublier, sans aller au-delà de deux portions par semaine. Et puis voilà, sont pour les recommandations chez l'adulte. Et puis on va publier les repères, le fonds scientifique des repères alimentaires pour la population, pour les populations spécifiques demain. Donc à 14h, ce sera sur notre site. Toutes les populations maintenant sont concernées.
Le site de l'ANSES.
03, 317, femmes enceintes, allaitantes, femmes ménopausées.
Sur le site de l'ANSES. Merci à tous, merci Guillaume Font, Irène Margaritis et Sébastien Boller, la une du tout nouveau numéro de Cerveau et Psycho.
L'intuition, savoir écouter son intuition pour débloquer les situations.
Demain avec l'anthropologue Philippe Brenneau et la gynécologue Marie Veluire, on se demande pourquoi c'est si compliqué l'amour. N'hésitez pas à témoigner dès 9h au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.